Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des cimetières, jamais.
Bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer.
C'était l'attentat de trop.
Dans une situation de crise, parfois, il faut anticiper.
Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Qui est le prochain sur la liste?
Il y avait beaucoup plus d'attentats à cette époque que maintenant.
Je voulais avoir une vie trépidante, j'ai de l'action.
Moi, mon job, c'est d'arrêter les malfaiteurs. Et j'ai fait mon job de poulet.
On dit d'eux qu'ils sentent la poudre, qu'ils partent tôt et qu'ils rentrent tard. On dit d'elles qu'elles ont de la poigne, qu'elles sont déterminées et qu'elles ne lâchent jamais. Ils et elles sont CRS, agents du renseignement intérieur, enquêteurs, baqueux, nuiteux, en sécurité publique, en unité d'intervention, dans les aéroports ou encore en ambassade. En un mot, ils et elles sont flics. Flics de la République, flics par conviction, flics de devoir, les flics ne laissent personne indifférent. Parfois controversés, renfermés ou même détestés, ils sont aussi avenants, attachants, voire captivants. Dans ce podcast, vous entendrez des récits hors normes de femmes et d'hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. Leur vie n'a rien d'ordinaire et ils vous la racontent dans Flic Stories. Pour ce sixième épisode, Denis Favier est notre invité.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Vous prenez café?
Ah bah oui, avec grand plaisir. Nous sommes à Satory, plus précisément dans l'enceinte de la caserne Pasquier, le quartier général du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Cette unité mythique de la gendarmerie nationale a été créée en 1974 et elle célébrera l'année prochaine ses 50 ans. Aujourd'hui, nous y avons rendez-vous non pas avec un grand flic, mais avec un grand gendarme. Bonjour Denis Favier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Je le disais, le GIGN fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Et vous, Denis Favier, vous avez pris le commandement de cette unité en 1992, il y a 31 ans. Et en 1992, vous aviez alors 33 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes venu ici?
Alors la première fois que je suis venu dans cette caserne à Satory, c'était en 1983 et la caserne était en construction. Et je me souviens que pour aller du centre de tir que nous verrons tout à l'heure jusqu'au bureau du commandant d'unité, il fallait prendre une échelle. Et donc le souvenir que j'ai, c'est celui-ci.
Une caserne en construction
en 1983. Le GIGN était depuis sa création en 1974 à Maison-Alfort et en 1984, il a fait mouvement vers Satory. Et donc j'ai vu cette caserne en construction. 1983.
Et vous avez ressenti quoi ici, la première fois?
Quand on rentre dans ces murs, dans ces locaux, on est toujours très impressionné. On essaie de ne pas gêner, on est dans ces petites chaussures, on fait des petits pas, on regarde, on observe. C'est toujours très impressionnant quand on arrive venant de l'extérieur.
Et aujourd'hui, en 2023, donc forcément 83-2023, on voit le nombre de décennies qui séparent ces deux moments. Ça vous fait quoi de revenir ici?
C'est toujours très émouvant. Ces lieux sont des lieux extrêmement forts, c'est des lieux desquels on est parti en opération, c'est des lieux où nous sommes revenus après les opérations, nous avons connu des temps forts, des débriefings, des départs en mission. Nous avons connu aussi des drames avec des accompagnements de famille qui étaient dans la peine. Donc ce sont des lieux chargés d'émotions et chargés d'histoire.
Et vous diriez qu'ici, à Satory, il y a des choses qui changent ou qu'au contraire, ces lieux, cette caserne, qui est le quartier général du GIGN, ça ne change pas?
Sur la forme, il y a des choses qui bougent et parce que l'unité a bougé au fil des temps. Elle s'est agrandie, donc il a fallu construire d'autres bâtiments. Sur le fond, il y a des choses qui demeurent. Bien sûr, l'esprit, et on le sent très nettement quand on rentre dans les murs ici, il y a un esprit particulier, il y a des gens qui sont occupés, qui préparent des missions. C'est une sorte de fourmilière, comme vous pouvez le constater, et ça, ça demeure. Et l'esprit de l'engagement en mission demeure incontestablement.
Vous le disiez, Denis Favier, 1974, année de création du GIGN, ça fera bientôt 50 ans. Si on se replonge un demi-siècle en arrière, pourquoi est-ce que, d'après vous, il fallait créer une unité comme le GIGN?
En fait, le fait initial, ce sont les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Il a fallu, face à une menace terroriste forte, doter notre pays, doter les pays occidentaux d'une capacité de réaction contre-terroriste. Et c'est dans cette mouvance-là, des Jeux Olympiques de 72, que le GIGN a été créé pour faire face à la menace.
Donc en 1992, une vingtaine d'années après, la gendarmerie nationale vous confie le commandement de cette unité célèbre, alors qui est déjà célèbre en 1992, parce qu'il y a eu les interventions à l'OIADA à Djibouti en 1976, puis à Ouvéa en Nouvelle-Calédonie en 1988. Alors, une question toute simple, pourquoi vous, Denis Favier, pourquoi vous confiez à vous le GIGN?
C'est une question de circonstances. Moi, je prends le commandement en 1992. À un moment, l'autorité hiérarchique fait le choix entre plusieurs officiers. Donc, j'avais déjà exercé des commandements. Je pense que j'avais montré des capacités, peut-être, aux yeux de ma hiérarchie en termes d'intervention. Mais en réalité, j'avais tout à apprendre en arrivant à l'unité.
Oui, parce que vous avez 33 ans. Et à 33 ans, comment on s'impose comme, si on s'impose toutefois, comme commandant d'une unité aussi prestigieuse que le GIGN?
Très clairement, le verbe s'imposer est impropre. Ici, on ne s'impose pas. Ça pourrait laisser penser que les galons suffisent à prendre le commandement de cette unité. C'est plus complexe. Les choses sont plus complexes. Ici, on doit faire son trou, on doit faire ses preuves et on ne s'impose pas. On est reconnu comme chef lorsqu'on a une légitimité opérationnelle.
Alors, on voit juste derrière vous, derrière nous, une poutre en métal qui est à 25 mètres en haut, au-dessus d'une sorte de grande tour métallique. Et il se raconte ici qu'on demande aux gendarmes qui veulent intégrer le GIGN de marcher le long de cette poutre à 25 mètres au-dessus du vide. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai. Et nous l'avons tous fait. Et au-delà de l'exercice...
Et vous l'avez
fait aussi. Bien sûr.
Et elle représente quoi, cette poutre?
En fait, c'est tout un symbole. En fait, au-delà de l'exercice, qui n'est pas uniquement un exercice physique, c'est un exercice qu'il faut prendre sur soi. Marcher dans le vide sur une poutre qui fait 10 cm de large en étant assuré par un dispositif sur les directives d'un instructeur. Donc il faut aller vers l'avant en se disant mais quand est-ce qu'il va nous arrêter, quand est-ce qu'il va nous demander de faire demi-tour. Et donc c'est la question de la confiance qui se pose derrière, la confiance dans le matériel, la confiance dans le moniteur qui sera demain, la confiance qu'on doit avoir dans le camarade qui sera avec nous en opération. Et donc voilà, c'est surtout ça qu'on travaille. Et la maîtrise de soi, bien sûr, ce qu'il faut prendre sur soi, rien n'est évident dans cet exercice.
Marcher à 25 mètres au-dessus du vide, c'est aussi une prise de risque. Vous feriez un lien entre le fait de marcher le long de cette poutre et la devise du GIGN « s'engager pour la vie » ou c'est excessif?
Non, je ne ferai pas de lien immédiat. La devise du GIGN « s'engager pour la vie », c'est vraiment une devise forte, mais je dirais sans forcément lien direct avec cet exercice qu'on vient d'évoquer. « S'engager pour la vie », c'est quelque chose d'extrêmement présent dans l'esprit. La vie des gens qu'on va sauver, et le GIGN, sa mission première, c'est de libérer les gens retenus en otage. Et donc, ils sont prêts, les gendarmes du GIGN, d'hier et d'aujourd'hui, aller très loin pour préserver cette vie qu'il aurait confiée. S'engager pour la vie, c'est aussi sa vie à soi qu'on doit préserver, bien sûr, contre les coups. Et s'engager pour la vie, ça veut dire qu'une fois qu'on a servi dans cette unité, eh bien, on est toujours imprégné
oui,
de la marque
jamais.
Qu'elle laisse. On ne la quitte jamais. Et donc, elle vous prend à vie, effectivement.
Alors, au GIGN, la préparation opérationnelle, ça compte beaucoup. Les membres de l'unité s'entraînent. Et je crois, Denis Favier, que vous vouliez nous faire découvrir certains de ces lieux dédiés à la préparation opérationnelle. On y va?
Oui, on y va.
Vous connaissez tout le monde, enfin, aujourd'hui, ici.
Oui.
On est ici dans une cabine d'avion reconstituée. On est assis sur des sièges de passagers de vol commercial pour évoquer une opération qui a particulièrement marqué le GIGN. Il s'agit de la prise d'otage des passagers du vol Air France 8969 entre Alger et Paris en 1994, avec un dénouement resté mythique sur le tarmac de l'aéroport de Marignane. On écoute.
Il était 17h12 quand les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut à l'Airbus d'Air France dont des terroristes islamistes algériens avaient pris le contrôle depuis samedi. Les quatre preneurs d'otages ont été tués, 13 passagers et 3 membres de l'équipage ont été blessés, la plupart d'entre eux légèrement. 8 gendarmes ont été également blessés, certains ont été touchés par balles. L'un d'entre eux a eu la main arrachée.
Le 24 décembre 1994, à l'aéroport d'Alger, les 200 passagers d'un Airbus assurant la liaison Alger-Paris pour le compte de la compagnie aérienne Air France sont retenus en otage par 4 terroristes islamistes qui exigent de décoller pour Paris où ils veulent tenir une conférence de presse. Denis Favier, à cette époque, vous êtes le commandant du GIGN. Vous vous rappelez comment vous avez appris la nouvelle?
Je me rappelle très, très, très précisément. Cette opération se déroule pendant les fêtes de Noël et moi je viens d'arriver exactement sur le lieu de mes fêtes de Noël.
Vous êtes en famille en fait à ce moment-là.
Je suis en famille et j'arrive dans les Pyrénées où je dois retrouver les membres de ma famille pour marquer Noël. Bien sûr, je me souviens parfaitement du déclenchement de l'opération.
En 1994, comment on vous appelle? Vous avez une ligne fixe que vous avez laissée pour le groupe d'alerte et on vous appelle dans votre maison?
Cette question est intéressante hein, parce que 1994, c'est il y a moins de 30 ans. À l'époque, on n'a pas de téléphone portable. Donc, on a un beeper qui nous permet de savoir que quelqu'un veut nous contacter avec, sur ce beeper, le numéro de téléphone à rappeler. Donc, moi, j'ai une information donnée par une ligne fixe.
Et cette information donnée par téléphone fixe est confirmée par la brigade locale qui vient ensuite me prévenir que là, il y a un sujet potentiellement grave qui est en train de se dessiner.
C'est-à-dire qu'il y a des gendarmes localement qui viennent vous chercher?
Les deux. J'ai eu l'information par le téléphone et aussi par la brigade locale.
Donc là, vous comprenez que c'est très grave.
Oui, je comprends que les choses sont assez compliquées.
Et à ce moment-là, on vous dit de quoi il s'agit? On vous dit juste il faut rentrer
Oui, très rapidement, on apprend qu'il y a un avion d'Air France qui est retenu sur le tarmac de l'aéroport d'Alger en fin de matinée le 24 décembre. Donc on comprend que c'est un sujet qui, compte tenu de la crise qui existe depuis plusieurs mois entre la France et l'Algérie, que c'est un sujet qui est potentiellement très, 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 très embêtant.
Et j'ai lu qu'on vous a envoyé à Palma de Majorque, donc ce qui veut dire qu'on envisageait peut-être de vous faire intervenir en Algérie, sur le sol algérien.
En fait, le prépositionnement à Palma de Majorque, c'est une première réponse de la France pour montrer que les autorités au plus haut niveau ont pris en compte la situation. Et donc, il y a cette potentialité d'action en Algérie. Très sincèrement, moi, j'y crois peu dès le début de l'opération, mais ça nous met au contact de ce qui se passe en Algérie. Ça nous permet de pouvoir évoluer sur un aéroport africain éventuellement ou un autre aéroport français sans trop de difficultés.
Parce que, si mes informations sont exactes, à Palma de Majorque, vous restez 17 heures. 17 heures, c'est long et c'est court à la fois, mais on fait quoi pendant 17 heures à l'aéroport de Palma de Majorque?
En fait, on passe la nuit de Noël sur l'aéroport de Palma de Majorque. On est en pleine crise, c'est-à-dire qu'il nous faut rassembler des renseignements, il faut être au contact de la cellule de crise parisienne, il faut comprendre l'intention politique, il faut voir comment on peut aussi avancer en technique. Donc pendant tout ce temps-là, les gendarmes s'entraînent, eux, sur un avion tout à fait similaire, qui est l'avion qui nous a acheminés à Majorque et nous qui permet de nous entraîner parce qu'il est configuré de la même manière que l'avion qui est retenu à Alger.
Alors Majorque, je le disais, vous y restez environ 17 heures, puis vous partez pour Marignane. Et alors il se dit, Denis Favier, que vous avez personnellement pris cette initiative de partir de Majorque sans qu'on vous le demande et de vous poser à Marignane. Est-ce que c'est vrai de le raconter comme ça?
Dans une situation de crise, parfois, il faut anticiper. Et donc, très clairement, nous, on avait des éléments d'observation très, très forts en Algérie, puisqu'on avait en dispositif de protection de l'ambassade de France des gendarmes parachutistes, des gendarmes du GIGN également.
Et là, vous étiez en liaison avec eux?
On était en liaison avec eux, qui nous donnaient des renseignements d'ambiance sur ce qui pouvait se passer à bord. Et très clairement, on a compris dans le courant de la journée du 25 qu'on n'agirait jamais en Algérie. Donc la négociation, elle s'est orientée vers un retour de l'appareil en France. Et dans cette perspective, nous, on a pris l'initiative effectivement de nous positionner à Alger, à Marseille.
Mais pourquoi vous allez à Marignane? Vous ne pouviez pas savoir que l'Airbus allait partir à Marignane. Sa destination, c'était plutôt Paris.
Parce que sa destination, c'est effectivement Paris. Mais dans les négociations, on voit bien que Paris est un point cible et qu'il est difficile, voire risqué d'acheminer l'avion sur Paris. Donc on travaille pour qu'il n'y ait pas assez de carburant pour aller sur Paris et juste assez de carburant pour aller à Marseille. Et dans la négociation, on sent que Marseille, c'est un aéroport qui peut être audible, recevable pour les terroristes.
C'est un coup tactique en fait, parce que vous avez pris votre unité, vous partez de Majorque, vous allez à Marignane, mais au final, l'avion n'aurait pu ne pas aller à Marignane et vous être avec vos hommes à Marignane.
Oui. Enfin, c'est plus qu'un coup tactique, c'est même un coup stratégique. C'est-à-dire que là, on prend de l'avance, on donne du rythme à la crise et on est en anticipation. Généralement, quand on arrive sur une situation de prise d'otage, la prise d'otage, elle est constituée et on arrive sur le lieu qui est tenu par l'adversaire. Et là, on inverse la donne. La prise d'otage va venir dans le lieu que l'on tient. Et donc, c'est une donne qui est totalement, totalement différente.
Lors de cette crise, vous avez 35 ans. Et il se dit que quand vous êtes à Marignane, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est Charles Pasqua, il est là et il vous demande quasiment d'intervenir très vite et puis vous lui dites non. C'est vrai, vous avez à 35 ans résisté à Charles Pasqua?
C'est plus complexe que ça. Ça relève un peu des mythes et légendes. Ce qui est sûr, c'est que le temps du politique et le temps de l'opérationnel sont deux temps qui sont différents. Tous les deux ont le même objectif, obtenir la libération des otages. Ce qui diffère, c'est les moyens de parvenir à cet objectif. Le politique veut que la crise soit résolue dans les meilleurs délais, mais résoudre une prise d'otage, c'est un exercice compliqué. Il y a 200 personnes, il s'agit de les sauver toutes. Et pour pouvoir conduire une opération de libération d'otages à ce niveau-là, il faut avoir des renseignements. Et il nous faut du temps. Et donc, il faut que l'opérationnel prenne du temps et soit maître du moment de l'engagement opérationnel. Ça ne peut pas être une décision qui vienne d'en haut. Et donc, voilà, c'est la discussion que nous avons eue avec les autorités politiques, mais ça a été bien...
Et votre rôle à vous, en tant que commandant du GIGN, c'est aussi de concevoir l'assaut C'est une de vos missions. Comment, Denis Favier, est-ce qu'on conçoit un assaut dans une cabine d'avion? Alors là, on est dans une cabine reconstituée, mais on voit que c'est quand même très étroit. Vous avez quatre terroristes face à vous. Ils sont épuisés, au moins nerveusement, par deux jours de prise d'otage. Ils ont 200 personnes qui sont retenues avec des armes, avec des explosifs. Comment on peut concevoir un assaut dans cet environnement si dégradé?
Je veux dire, quand on arrive à Marignane, ce n'est pas la première fois que le GIGN découvre un avion. Il y a un gros travail de fond qui a été conduit durant les années passées sur tous les types d'appareils de la compagnie Air France. Et donc, le GIGN connaît bien les avions et régulièrement s'entraîne de jour comme de nuit sur les grandes plateformes parisiennes pour pouvoir appréhender au mieux tous les types d'avions. Donc, un type d'assaut, eh bien, il y a l'assaut délibéré, ça c'est assez classique. On choisit une arrivée par l'arrière dans les conditions les plus discrètes possibles. Et puis, il y a le plan d'assaut d'urgence. Et là, il faut pouvoir rentrer par un maximum de portes dans l'appareil pour, en quelque sorte, créer un effet de sidération qui déstabiliserait les terroristes, permettant ainsi l'évacuation des otages. Donc tout ça, c'est la mise en œuvre de schémas que nous avons déjà travaillé à l'entraînement, et particulièrement en 1994.
Quand vous vous élancez à l'assaut de l'appareil, vous êtes sur les passerelles, on voit ces images des passerelles qui avancent vers l'Airbus, et vous essuyez de premiers tirs. Est-ce que vous ressentez de la peur à ce moment-là?
Quand on est dans la phase d'exécution, non, on ne ressent pas de peur. On est comme dans un mauvais cauchemar. On voit l'opération qui se rapproche. Vous savez, vous êtes à 100 mètres, vous êtes à 50 mètres, vous êtes à 10 mètres. Et on sait que là, il y aura contact, il faudra y aller. Je dirais qu'il n'y a pas de place pour la peur dans la phase exécution. En revanche, dans la phase préparation, quand on met en œuvre tous les mécanismes d'analyse, on peut avoir bien sûr quelques hésitations et quelques interrogations. Mais encore une fois, le collectif permet de les appréhender avec l'expertise des uns et des autres. En prenant en compte les avis, on arrive à dégager le mode opératoire le plus efficace possible.
Tous les Français qui ont connu ce moment ont les images en tête. Mais on voit, parce que notamment il y avait la première chaîne d'information en continu qui avait filmé ça, la passerelle qui arrive au contact de la porte avant de l'appareil. Il y a un petit dénivelé qui empêche l'ouverture de la porte de l'avion. Et celui qui conduit la passerelle réalise une manœuvre un peu décisive, puisque ça a consisté à reculer la passerelle pour dégager la porte et permettre ainsi que vous rentriez dans la cabine de l'avion. Il vous a un peu sauvé en faisant ça, cet opérateur du GIGN.
Encore une fois, on est dans le cadre d'un plan d'assaut d'urgence. Donc il s'agit de rentrer le plus rapidement possible dans l'appareil pour stopper l'action des terroristes. Et donc on choisit de rentrer par trois portes, en sachant que peut-être une des trois ne s'ouvrira pas. On a beaucoup travaillé à l'exercice, mais là on parle d'opérations très très du haut du spectre. Et donc là il s'agit on est au centimètre près, donc effectivement la porte bute un peu. Mais par un geste qui permet de régler la solution, la situation, la passerelle recule un peu et la porte est ouverte assez rapidement. Si j'évoque ça, c'est pour dire, bien sûr, la réussite de l'opération repose en partie sur ce geste-là. C'est pour dire aussi que dans cette unité extrêmement qualifiée qu'est le GIGN, l'esprit d'initiative est cultivé au plus loin. Il y a le schéma général d'opération où chacun sait la place qu'il va tenir. Et il y a laisser à chacun la capacité d'apprécier là où il est, ce qu'il peut faire pour contribuer à la réussite générale de l'opération. Et donc, ce qui distingue le GIGN peut-être d'autres unités, c'est cette capacité en situation opérationnelle, dans le fil de l'action, qu'à chaque opérateur de pouvoir, parce qu'il est bien imprégné du fil de la mission, décider à son niveau ce qui peut contribuer à la réussite de la mission.
Et vous, Denis Favier, vous êtes rentré à bord de l'avion avec vos hommes pour affronter les terroristes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous décrire la scène à l'intérieur de l'avion lors de l'assaut quand vous rentrez dans la cabine?
Moi, je rejoins ma position, c'est-à-dire au cœur des forces avec les gendarmes qui vont s'engager. Parce que dans mon esprit, il n'est pas concevable que le patron ne soit pas au cœur de l'opération s'agissant d'une opération qui est une opération majeure. Et chacun l'a compris dès le début de la prise en compte de la mission.
Ça veut dire que vous rentrez avec vos hommes par le groupe qui est en confrontation directe avec les terroristes. Vous êtes au contact, en fait.
Oui, moi, je suis sur la passerelle avant-droite. Et donc, pénétration par la porte avant-droite, c'est la porte qui est au contact du cockpit et donc des terroristes.
Et donc, vous les voyez?
Oui, bien sûr.
Vous tirez dessus, vous leur tirez dessus.
Sûr,
enfin, c'est concrètement, pour les auditeurs, c'est comme ça que ça se passe.
Bien sûr. Il y a échange de tirs. Je rentre par cette porte et je suis positionné couloir de gauche face au cockpit. Donc, je vois, je ne vais pas dire clairement parce qu'il fait sombre, parce que la porte s'ouvre et se ferme, mais je vois régulièrement l'action des terroristes.
Et vous êtes pris dans cet échange de tirs?
Bien sûr, avec les gendarmes autour de moi, devant moi et derrière moi qui sont blessés.
Et il faut malgré tout continuer?
Oui, certains ne peuvent plus agir parce qu'ils sont trop atteints. Hein. Et d'autres sont au sol et ne peuvent plus bouger et attendent qu'on les évacue. Donc on est vraiment là dans une opération avec un engagement humain extrêmement fort. Quand on déclenche l'assaut, il y a deux terroristes à l'arrière et deux terroristes à l'avant. Les deux terroristes qui sont dans le cockpit sont les deux leaders du commando. Et ceux qui sont à l'arrière, ben, ce sont des exécutants. Ce sont eux qui, en ouvrant les portes arrière-droite et arrière-gauche, voient arriver les passerelles. Ce sont eux qui appliquent des feux. Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le paysage, et ils vont rendre compte à leurs chefs qui sont à l'avant. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on rentre dans l'avion par la porte avant-droite, il y a quatre membres. Les quatre membres du commando sont
tous regroupés dans le cockpit.
Alors après, c'est des mécanismes de négociation. On a réussi par des manœuvres de négociation à mettre une zone tampon entre le cockpit et le reste de l'avion. Donc effectivement, là, il y a une prise à partie qui est extrêmement forte par les terroristes qui prennent à partie les éléments de tête. Les blessés, vous le savez, sont nombreux. Certains ont été très très lourdement atteints et on tient ici à saluer leur action sans laquelle il n'y aurait pas eu de réussite de l'opération. Donc on est confronté, si vous voulez, à un mur de feu. On est dans l'obscurité, il y a des explosions de grenades, il y a des cris. Donc c'est une ambiance extrêmement déstabilisante.
Comment vous arrivez justement à vous orienté avec la poudre, le bruit des grenades, les tirs?
Dans le briefing, chacun a une place assignée, donc il s'agit de rejoindre la place qui a été assignée au briefing et puis de tenir la position et de remplir la mission qui a été donnée au briefing. Et puis très rapidement, ce groupe de tête, lorsqu'il prend position, essuie des tirs importants, il a des blessés, mais il est soutenu par les deux groupes qui arrivent de l'arrière et qui permettent de, non seulement d'évacuer l'ensemble des otages, mais d'apporter un soutien important à l'élément de tête.
À quel moment vous savez que l'opération est terminée, que vous avez sauvé l'intégralité des otages, que les terroristes ont été neutralisés, qu'il faut faire halte au feu? Comment vous savez que c'est le bon moment pour que l'opération se termine?
C'est une opération longue, hein. C'est un assaut qui a été très long parce qu'il faut évacuer tout le monde. Très rapidement, de ma position, moi j'ai conscience que les otages sont sains, mais il reste un sujet majeur, c'est celui du cockpit et des membres de l'équipage. Très rapidement, les otages sont évacués par les issues de secours, par les colonnes qui viennent de l'arrière. Mais pour le reste, il y a encore des terroristes qui sont dans le cockpit et qui sont virulents, en clair. Moi, j'ai une certitude de la fin d'opération quand je vois sortir le commandant de bord, blessé, parce qu'il a communiqué avec la tour de contrôle, dans laquelle nous avons nos éléments de négociation qui nous font passer sur le réseau radio l'information comme quoi l'affaire maintenant est terminée.
Dans le cockpit. Cet assaut, je le disais, c'est un assaut mythique pour le GIGN, mythique même pour la France. Il y a eu plusieurs reportages, il y a même eu un film. Quand est-ce que vous prenez conscience, si vous prenez conscience, Denis Favier, que bah, vous avez accompli un exploit, tout simplement, à Marignane?
Très clairement, ça, on n'a pas cette conscience-là. La préopération, l'immédiate préopération est extrêmement déstabilisant. Nous sommes, après le bruit des tirs et des explosions, dans un silence qui est un silence assourdissant, une sorte de chape de plomb qui tombe sur l'appareil. On évacue l'équipage. Après, il y a des questions qui se posent sur nos blessés, la nature de leurs blessures. Pendant plusieurs minutes, on est dans l'incertitude. Est-ce qu'on a des blessés? Est-ce qu'éventuellement, on a des victimes dans les rangs de l'unité? Est-ce que tous les otages sont saufs? Donc, il y a un moment de flottement dans la préopération qui est extrêmement déstabilisant. Au bout de quelques dizaines de minutes, on arrive à avoir un point qui est plutôt rassurant. Mais après, on est pris par un tourbillon. Il faut reconstituer les équipes, il faut récupérer les matériels, il faut revenir à Paris. Donc, on est dans une logique opérationnelle. On n'a pas dormi depuis 54 heures, donc on ne prend pas du tout la mesure de ce qui vient d'arriver.
Denis Favier, votre carrière dans la gendarmerie nationale ne débute pas en 1992 au GIGN et ne s'achève pas non plus en 1997 quand vous quittez cette unité d'élite pour la première fois. C'est pourquoi je vous propose qu'on prolonge cette discussion autour de votre carrière de gendarme dans un autre endroit, ici à Satory, qui est le bureau que vous occupiez à votre arrivée en 1992. Vous nous y emmenez?
Il est à quelques pas, on y va.
Sans la poudre. Denis Favier, on est là dans le bureau que vous occupiez à votre arrivée au GIGN en 1992. Et c'est pour nous l'occasion de revenir aussi sur votre parcours de vie et de vie professionnelle. Vous êtes né en 1959 à Lons-le-Saunier, dans le département du Jura. Et après vos études secondaires, vous intégrez une classe préparatoire militaire. Vous préparez le concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous avez toujours eu envie d'être militaire ?
Oui, dès ma plus tendre enfance, j'ai eu cette envie.
Comment vous l'expliquez ? Ça vous est venu d'où ? C'est que vous aviez des militaires dans la famille ?
Sans doute un marqueur familial, en effet. Mon père était militaire, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai toujours évolué dans cette ambiance-là et j'ai toujours eu envie de rejoindre ce milieu et de faire Saint-Cyr. C'était mon objectif étant enfant.
Le concours de Saint-Cyr, vous le réussissez. Et en 1981, vous intégrez l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. En 1983, à votre sortie, vous rejoignez la gendarmerie. Pourquoi vous avez choisi la gendarmerie ? Parce qu'au fond, vous nous dites « j'ai toujours voulu être militaire ». Alors certes, la gendarmerie est une force armée, mais ce n'est pas l'armée de terre, par exemple. Pourquoi avoir choisi la gendarmerie ?
En fait, moi, je suis militaire de la gendarmerie. Et j'ai fait le choix de la gendarmerie parce que, à l'issue de ma scolarité, il me semblait que c'était l'armée la plus adaptée à mon tempérament, à mon caractère, à la fois orientée vers les opérations concrètes du quotidien, au profit de nos concitoyens, dans une logique de service du pays. Donc, je retrouvais bien mes éléments.
Et alors, à l'issue de votre scolarité à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, vous faites encore un choix qui est un petit peu spécifique par rapport à la majorité. C'est-à-dire vous faites le choix de rejoindre un escadron de gendarmerie mobile. Alors pour l'expliquer aux auditeurs, la gendarmerie mobile, elle est quand même plus particulièrement tournée vers le maintien de l'ordre, notamment outre-mer. Et outre-mer, alors vous y allez avec votre escadron de gendarmerie mobile. Vous allez en Nouvelle-Calédonie, notamment. Ça ressemble à quoi, la Nouvelle-Calédonie, au milieu des années 1980 ?
C'est un territoire en crise à cette époque-là. Moi, j'ai fait deux séjours, le premier en 85, le second en 87, dans un territoire qui est confronté à des crises importantes. Pour les jeunes officiers, c'est l'occasion de connaître les opérations et la première prise de responsabilité. On est souvent en poste isolé avec un détachement de 25 à 30 hommes. Et donc, c'est assez intéressant de découvrir le métier de l'intérieur et d'être placé en situation de responsabilité assez lourde, en fait.
Donc, vous servez en gendarmerie mobile jusqu'en 1988. Entre 1988 et 1990, vous êtes instructeur à Saint-Cyr. Puis, vous commandez pendant deux ans la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Gaudens, dans le département de la Haute-Garonne. En 1992, vous rejoignez le GIGN, où vous occupez le bureau dans lequel on se trouve présentement. Et en 1997, vous rejoignez l'école de guerre pour y suivre votre formation d'officier supérieur. Vous servez ensuite deux années en état-major. Et en 2000, vous commandez le groupement de gendarmerie départementale de Haute-Savoie avec un événement un peu particulier à gérer, c'est le sommet d'Évian. Est-ce que vous nous racontez ce qu'est ce sommet d'Évian et quels étaient les enjeux en termes de sécurité ?
Le sommet d'Évian, c'est un sommet majeur. C'est à l'origine un G8, mais qui devient rapidement un G30 avec de nombreux chefs d'État invités. C'est le premier sommet international d'ampleur organisé après les attentats de 2001. Et donc, c'est la France qui l'organise dans un contexte de contestation qui est assez fort. Et le lieu choisi est Évian. C'est un lieu difficile à défendre, à la fois mer et montagne. Le lac Léman est à proximité. C'est un lieu qui est complexe parce qu'il est à cheval sur deux pays, la France, la Suisse. Et moi, je commande le groupement de la Haute-Savoie. Et donc, je suis associé de très près à l'organisation de ce sommet sous l'autorité du préfet local. Et nous bâtissons, et c'est ça qui est intéressant, une manœuvre qui est une manœuvre conjointe entre police et gendarmerie. Et je m'entends très bien avec le directeur départemental de la sécurité publique. Et nous avons une manœuvre d'ensemble dans laquelle nous embarquons les gendarmes, les policiers, les militaires qui nous rejoignent par la suite, l'ensemble des services de la préfecture. Et donc, pour moi, c'est un sommet qui laisse le souvenir d'une opération vraiment intéressante en interservice et qui montre que lorsqu'on arrive à s'unir pour aller vers un projet commun, eh bien, on peut faire de grandes choses.
En 2003, vous quittez la Haute-Savoie pour un nouveau temps en état-major et en 2007, vous devenez à nouveau commandant du GIGN, si bien que, je crois, Denis Favier, que vous êtes le seul officier de gendarmerie à avoir commandé deux fois le GIGN.
Oui.
Deux fois. Et pourquoi vous le faites deux fois ? C'est assez atypique. C'était pas naturel de commander une deuxième fois le GIGN. Ça vous manquait à ce point que vous revenez ?
Alors, en fait, le sujet, c'est que le GIGN a profondément évolué. Le GIGN que j'ai commandé dans la première fois, entre 92 et 97, est celui que j'ai recommandé en Entre 2007 et 2011, ce sont deux unités différentes. En 2007, nous avons conduit une réforme majeure pour doter notre pays, la France, d'un véritable outil contre-terroriste en agrégeant des capacités qui sont des capacités nouvelles.
Là, vous faites allusion au rapprochement entre le GIGN et l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale, ce qu'on appelle l'EPIGN. C'est-à-dire qu'il fallait fusionner ces deux unités.
Il fallait fusionner le GIGN, l'EPIGN, le groupe de sécurité de la présidence de la République, le groupe de formation. Il fallait créer une entité nouvelles et faire venir d'autres capacités, notamment
ça,
des capacités
un
techniques.
Un gros GIGN augmenté, pour
faire
l'expliquer.
Faire un GIGN augmenté, ouais. C'est ça. Et nous sommes aujourd'hui dans cette logique de GIGN augmenté avec des antennes qui sont en province et outre-mer.
Et quand vous commandez le GIGN pour la seconde fois, vous êtes amené à gérer une crise qui vous emmène très loin de Satory et de la France. Il s'agit de la prise d'otage des membres d'équipage du navire de croisière le Ponant, le 4 avril 2008.
On a peine à le croire et pourtant la piraterie existe et sévit encore. Un navire de croisière français a été pris d'assaut au large de la Somalie, dans le golfe d'Aden. Le voilier de luxe, qui mesurait près de 100 mètres et qui revenait des Seychelles, sans passagers, se dirigeait vers la Méditerranée avec une trentaine de membres d'équipage à son bord. Une cellule opérationnelle a été mise en place au Quai d'Orsay et le gouvernement a déclenché le plan pirate-mer.
Le 4 avril 2008, le Ponant revient d'une croisière aux Seychelles. Il fait route vers la mer Méditerranée où il doit démarrer une nouvelle croisière à la fin du mois d'avril de la même année. Et vers 13h15, à l'entrée du golfe d'Aden, le navire est pris d'assaut par une douzaine d'hommes équipés de Kalachnikov et d'un lance-roquettes. Les 30 membres d'équipage du Ponant n'ont pas les moyens d'opposer une résistance et ils sont tous pris en otage. Et Denis Favier, à quel moment, dans cette crise du Ponant, le GIGN est activé?
Le groupe est activé très vite parce que, de même qu'on est... Le GIGN est reconnu comme unité compétente sur le contre-terrorisme aérien. Il est reconnu dans le cadre des plans gouvernementaux en matière de contre-terrorisme maritime. Et cette fois, il agit bien sûr avec les commandos marines. Et donc c'est une entité capable de prendre en compte tous les actes de piraterie maritime qui se déroulent en France ou loin de France, dès lors que les intérêts français sont touchés.
Et alors j'ai lu que vous, personnellement, Denis Failly, vous avez été parachuté en mer lors de cette crise. C'était nécessaire pour vous de vous rendre sur place au point qu'on vous parachute en mer, que vous rejoigniez un bateau. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une crise importante. Hein. Là encore, il y a des otages, 30 otages qu'il faut libérer. C'est une opération intéressante et importante. Elle se déroule loin de France. La principale difficulté, c'est la question de l'élongation. Il faut d'abord aller à Djibouti. Ensuite, il faut rejoindre ce bateau qui est au large des côtes somaliennes. Et pour rejoindre les bateaux qui sont autour du bateau le Ponant, eh bien, il n'y a que la voie aérienne. Donc c'est un exercice qui est incontournable. Parachutage en mer et récupération pour pouvoir prendre pied au plus près du lieu de la crise.
Parce que pour vous, en fait, une crise, ça se gère in situ, en fait. Vous ne pouviez pas la gérer autre part, cette crise.
Ah ben, quand on est patron du GI, si on veut vraiment savoir de quoi on parle, il vaut mieux être sur le terrain. Oui.
Et le 11 avril 2008, vous libérez l'intégralité des otages, contre notamment le versement d'une rançon de plus de 2 millions de dollars, c'est ce qui a été rapporté dans la presse. Comment vous expliquez ne pas être parvenu à récupérer entièrement la rançon? Ce n'était pas un objectif opérationnel?
Moi, je peux parler de la partie qui était la mienne dans la mission. Nous, notre objectif, et la mission du GIGN, c'est d'obtenir la libération des otages.
Ça, c'est bon.
Ça nous l'avons obtenu. Et c'est assez compliqué en mer, parce qu'il faut être capable de négocier, de remettre la rançon, et en même temps qu'on remet la rançon, il faut s'assurer de l'intégrité et de la récupération des otages.
Parce que la rançon est remise en mer.
Et remise en mer.
Et comment, justement, si on s'arrête un instant sur ce moment, comment ça se passe? Il y a des gendarmes du GIGN qui remettent la rançon pendant que d'autres récupèrent les otages.
C'est un exercice combiné, effectivement. Ce sont des gendarmes, il y a aussi des commandos marines, pour être très, très, très complet sur l'expression. Et donc, il faut, dans le même temps, ce sont des manœuvres concomitantes. Donc, il faut coordonner à distance par une observation assez fine, parce qu'il faut qu'au bout du bout, les otages soient absolument libérés. Et si ce n'est pas le cas, il faut être capable d'intervenir de vive force, de même qu'il faut être capable d'intervenir de vive force si ça dégénérait. Donc, c'était quelque chose d'assez subtil, d'assez fin.
En 2011, vous quittez le GIGN une deuxième fois, avec à cette occasion une grande cérémonie de passation de commandement. C'est à quelques pas d'ici, d'ailleurs, c'est à l'extérieur de la caserne. Alors, ce jour-là, vous ne le savez peut-être pas, mais j'étais là, j'étais présent, j'avais 26 ans, et je me disais, en vous voyant passer vos troupes en revue, que j'assistais tout simplement au départ d'un mythe, ici, dans cette caserne. Est-ce que vous aviez conscience de ce que vous incarniez pour beaucoup de gens, y compris non-gendarmes, moi, j'étais pas gendarme, à ce moment-là de votre carrière?
quand on porte un regard sur une carrière, on se rend compte que c'est souvent affaire de circonstances, d'être là au bon moment et peut-être de prendre la bonne décision. Et c'est le seul regard que je porte. Et moi, je n'ai pas du tout ce sentiment que vous mettez en avant de relever du mythe. J'ai commandé certes deux fois le GIGN, mais c'est une affaire de circonstances aussi.
Entre 2011, donc votre départ du GIGN, et 2012, vous commandez un temps la région de gendarmerie Île-de-France. Puis en 2012, Manuel Valls devient ministre de l'Intérieur. Et vous arrivez à son cabinet. Il vous fait venir. Vous êtes conseiller gendarmerie du ministre. Et avec le recul, vous diriez que cela vous a appris quoi, ce passage en cabinet ministériel ?
Ce passage en cabinet qui était assez inattendu pour moi. Je suis appelé par le ministre de l'Intérieur. Je commande la région Île-de-France. Je suis sur un poste technique de conseiller. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai trouvé que la dynamique du cabinet est une dynamique qui m'a impressionné. Le niveau d'engagement, le travail, la logique de produire de la sécurité pour être utile aux Français. Moi, j'ai apprécié cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris, bien sûr, à comprendre comment se forgeaient les décisions politiques, à comprendre certains mécanismes qui m'ont été fort utiles quand, quelques mois plus tard, j'ai été directeur général de la gendarmerie.
Oui, vous restez pas très longtemps en cabinet ministériel, puisque en 2013, donc l'année suivante, vous êtes promu directeur général de la gendarmerie nationale. C'est le plus haut poste que compte la gendarmerie nationale, qui est une force de 100 000 femmes et hommes. Alors vous allez évidemment nous raconter ce temps fort de votre carrière, mais je crois qu'il y a avant ça un dernier lieu où vous vouliez nous emmener, c'est le musée du GIGN.
Eh oui, c'est un lieu d'histoire. Le GIGN a connu de nombreuses opérations et au musée, eh bien, on a un espace de recueillement, d'entretien de la mémoire où on s'interroge sur d'où on vient pour mieux préparer notre avenir.
Ben on y va, c'est parti. Le casque de Thierry Pregnaud. Donc Thierry Pregnaud, c'est lui qui est rentré en premier dans l'Airbus à Marignane.
C'est un musée, c'est un lieu de mémoire qui nous permet de nous orienter sur quelques opérations lourdes de l'unité avec une des vitrines qui présente certaines séquences fortes, qui nous permet également de nous recueillir autour des disparus. Vous avez là un tableau qui permet de saluer la mémoire des gendarmes disparus à l'entraînement ou en opération. Et puis vous avez également quelques présentations des capacités techniques particulières. Oui, là c'est des dispositifs avec des caméras qui sont discrètement incrusté dans certaines canettes qui sont présentées devant vous, dans des pierres qui sont là. C'est pour montrer ta capacité d'observation et de recherche de renseignements.
Alors on est ici au musée du GIGN pour évoquer, Denis Favier, le dernier temps de votre carrière au sein de la gendarmerie nationale. À partir de 2013, vous devenez directeur général de la gendarmerie nationale. Vous êtes le DG, comme on dit dans le jargon gendarmerie. Qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous prenez ces fonctions de directeur général ?
Moi, ce qui me marque, c'est avant tout l'ampleur des responsabilités qui m'incombent désormais. Je suis issu des rangs de la gendarmerie, j'y sers depuis une trentaine d'années et j'en suis désormais le patron. Et donc, c'est une responsabilité lourde que je mesure le jour même où je prends mes fonctions. J'en suis le patron et ça veut dire que beaucoup de choses reposeront désormais sur moi. Donc il faut que je sois très juste dans mes analyses et fort dans mes décisions pour pouvoir promouvoir notre maison et aussi répondre aux besoins de sécurité qui est extrêmement important.
Mais justement, vous disiez être rattrapé par le terrorisme. Le terrorisme, vous avez eu à l'affronter à nouveau. C'est pas la première fois dans votre carrière où vous y êtes confronté, mais en 2015, le 7 janvier, il y a deux terroristes, Saïd et Chérif Kouachi, qui font irruption dans la rédaction de Charlie Hebdo. Ils y tuent froidement 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction du journal, et blessent 11 autres personnes.
Comme une scène de guerre. En plein Paris. Il est un peu plus de 11h ce matin. Deux hommes cagoulés abattent froidement un policier avant de s'enfuir en revendiquant leur attentat. Quelques minutes plus tôt,
gaffe, hein.
Des journalistes trouvent refuge sur le toit du journal Charlie Hebdo. Ils tentent d'indiquer aux policiers où se trouvent les tireurs, juste
gauche,
en bas de l'immeuble.
À gauche! À gauche! Là, là, là!
Les assaillants crient « Allah Akbar ». Dieu est grand en arabe.
Contrairement à d'autres auteurs d'attentats terroristes, les frères Kouachi ne meurent pas rue Nicolas Appert, sous les fenêtres de Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement de Paris, en affrontant les forces de l'ordre, mais ils prennent la fuite en voiture. et va alors s'engager une course contre la montre pour les retrouver. C'est une opération de recherche, au sens propre du terme. Alors, Denis Fallier, vous êtes à ce moment-là directeur général de la Gendarmerie nationale. Quel est votre rôle exact dans cette opération de recherche ?
On a très rapidement conscience que les terroristes ont fui en voiture. Ils ne sont plus forcément dans la région parisienne. On a des traces de passage dans les Ardennes, dans la Marne, dans l'Aisne. Bref, on sait que globalement, dans le quart nord-est, il y a des traces, des présomptions de passage des terroristes. Et donc moi, mon rôle, c'est de mettre en œuvre toutes les capacités de la gendarmerie pour pouvoir contrôler une zone vaste entre les limites de la région parisienne et la frontière avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Et donc moi, mon rôle de directeur général, eh bien, c'est d'engager une opération de recherche. En pareille situation, on peut bien sûr engager l'enquête judiciaire, il faut l'engager, elle travaille sur un temps qui est un temps davantage long, et la recherche opérationnelle. Et donc ce qu'on a proposé, c'est de mixer les deux, l'enquête judiciaire qui doit se tenir, et bien sûr les recherches opérationnelles qui doivent être engagées pour mettre un terme le plus rapidement possible à la fuite des frères Kouachi. Et donc, en tant que directeur général, j'engage tous les moyens de la gendarmerie pour pouvoir contrôler une zone vaste et les axes.
Oui, parce que la priorité, c'est évidemment de les localiser. Et alors, il y a à ce moment précis de la séquence une photo qui est restée célèbre, où on vous voit avec des feutres. Vous avez des feutres en main et vous tracez des cercles sur une carte routière devant le président François Hollande. Et sur cette photo, on voit François Hollande très concentré qui vous regarde tracer ces cercles au feutre. Vous lui dites quoi à ce moment-là ?
En fait, c'est une opération qui s'inscrit sur plusieurs jours. Et très clairement, lorsque cette photo est prise, nous sommes à la fin de la séquence. Le contrôle de la zone que nous avons exercé en gendarmerie nous permet de localiser les frères Kouachi. Et alors que nous sommes en conseil de défense, j'ai cette information qu'ils sont précisément localisés.
Donc vous lui montrez où ils sont.
Je lui montre sur la carte et puis je lui montre également les opérations que l'on peut conduire derrière.
Donc vous lui proposez à ce moment-là des schémas ?
On propose des modes d'action. La question première qui se pose à nous, c'est celle de la localisation. Une fois que les terroristes sont logés dans un endroit, c'est une opération qui devient statique et là, on sait davantage la
gérer. Oui, ils sont logés dans une imprimerie, à Dammartin-en-Goële, et vous vous y rendez sur place. Alors, une fois encore, il fallait pour vous être sur place, même en tant que directeur général ?
Oui. Il fallait être sur place parce qu'il faut remettre l'opération dans un contexte plus vaste. C'est une opération d'envergure. On contrôle une zone pour, en pensant que les Kouachi sont dans cette zone. Cette zone, on la tient. On la tient dans la durée, jour et nuit. Et on contrôle tous les écarts. On les prive de toute liberté de mouvement jusqu'au moment où ils doivent sortir parce qu'ils n'ont plus à manger, ils ont froid, ils ont sommeil et ils sortent. Et quand ils sortent, ils sont naturellement détectés. Donc si je vais sur place, c'est que c'est une opération d'ensemble qui nécessite l'engagement de moyens extrêmement importants de la gendarmerie. Les hélicoptères, la gendarmerie mobile, ouais. La départementale.
Il y a aussi le GIGN d'ailleurs.
Et aussi le GIGN.
C'est
bien
une
sûr,
des opérations du GIGN.
Et bien sûr, et les unités d'intervention également de la police. Donc quand ils sont localisés à Dammartin, eh bien l'opération va toucher à sa fin. Mais le dispositif est encore un dispositif de très grande envergure qui concerne le GIGN, mais pas uniquement.
Mais parce qu'en allant physiquement à Dammartin, le symbole que vous voulez envoyer à la gendarmerie, c'est « je suis le chef, je ne suis pas dans mon bureau, je suis sur le terrain, je suis avec vous ».
C'est une affaire qui est une affaire d'État à ce moment-là. La France, elle est vraiment sous le choc. La tuerie de Charlie Hebdo, c'est quelque chose qui a quand même bouleversé les esprits. Et donc, naturellement, moi, je suis patron d'une des grandes forces. Ça se passe dans la zone de compétence de la gendarmerie, dans mon esprit, et il n'est pas concevable de ne pas être présent. Et j'ai un rôle à tenir vis-à-vis du préfet de département qui est présent, vis-à-vis du procureur Molins, qui est le procureur à l'époque chargé des questions terroristes. Donc il faut bien sûr être présent. Et la manœuvre est bâtie à Dammartin pour réduire les frères Kouachi.
Après cette crise de nature terroriste, quelques semaines plus tard à peine, vous aurez à connaître une autre crise, Denis Fallier, celle qui est provoquée par le crash d'un avion de la Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence, le 24 mars 2015. L'accident est provoqué par le copilote, Andreas Lubitz, qui a volontairement fait écraser l'avion. Le crash fait 150 morts, les 144 passagers et les 6 membres d'équipage.
Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale de la rédaction. Elle est bien sûr consacrée au crash d'un Airbus A320. Il s'est écrasé en fin de matinée sur la commune de Méolens-Revel, dans une zone montagneuse des Alpes de Haute-Provence. Il y avait 148 personnes à bord. Il n'y a aucun survivant. Peu avant l'accident, le vol s'est déclaré en état de détresse. C'est un drame épouvantable, a dit François Hollande.
Denis Fallier, vous êtes directeur général de la Gendarmerie nationale. Et quand on est confronté au troisième accident d'avion le plus grave de l'histoire de l'aviation française, on réagit comment ?
eh bien, on réagit dans l'esprit qui est celui de notre maison. C'est-à-dire qu'on décide de prendre en compte l'opération sans compter les moyens, dans une logique de complémentarité avec toutes nos capacités et dans logique aussi de répondre à une aspiration de sécurité. C'est un vrai traumatisme. Cet avion est écrasé en montagne, les zones sont difficiles d'accès, il y a des familles qui sont en attente, on n'arrive pas à identifier facilement les corps. Donc voilà, on répond à cette préoccupation de sécurité en engageant vraiment des moyens extrêmement importants. Sur cette opération, les gendarmes ont fait des prouesses. Les gendarmes pilotes d'hélicoptères, ceux qui étaient guides de haute montagne pour sécuriser les accès, les gendarmes mobiles pour sécuriser la zone, la gendarmerie départementale sur, et les services d'enquête, les sections de recherche et bien sûr aussi le laboratoire que nous avons déplacé sur place pour faire sur place des tests ADN, les prélèvements et les tests. Et ainsi, dans un temps qui est un temps record, identifier l'ensemble des corps et permettre à chaque famille de faire son travail de deuil. C'est aussi pour ça qu'on s'engage massivement sur une opération de cette nature.
Au moment où survient cette crise, donc vous êtes évidemment en cellule de crise, c'est votre place, mais parallèlement à ça, il y a le roi d'Espagne qui est en visite d'État en France. Il a rendez-vous avec François Hollande, c'est un hasard de calendrier, et le roi va venir dans votre cellule de crise. François Hollande le ramène à votre contact.
Oui,
et vous devez expliquer au roi d'Espagne, pendant la crise, ce que vous êtes en train de faire.
Oui, le jour même où l'avion s'écrase, débute la visite d'État du roi d'Espagne en France. Et effectivement, le président lui propose d'assister à la réunion du centre de crise de Beauvau. Roi d'Espagne, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, et il faut faire un point sur cette situation qui est dramatique. Nous sommes à quelques heures à peine du crash de l'avion.
Alors, en préparant ce podcast, j'ai lu beaucoup d'interviews de vous, j'en ai écouté aussi beaucoup, et vous dites très souvent, Denis Favier, que lorsque vous avez été directeur général de la gendarmerie nationale, vous êtes attaché à tourner toute la gendarmerie vers les opérations. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Ça veut dire quoi? Tourner la gendarmerie vers les opérations.
Par là, j'entends que la gendarmerie est un service public et qu'elle doit rendre au public un service. Et le service qu'elle doit rendre, c'est un service de sécurité. L'aspiration à la sécurité, c'est une aspiration légitime. Elle contribue à l'épanouissement de chacun. Nous avons tous besoin de sécurité pour évoluer en liberté. C'est un principe pour moi du fondement de notre démocratie. Et donc moi, mon rôle, c'est pas de faire de la gendarmerie pour la gendarmerie. J'ai voulu remettre chacun sur son cœur de métier, que chacun des gendarmes eh bien, soit un acteur à son niveau de la politique locale de sécurité, qu'il apporte ainsi à nos concitoyens ce bien précieux qu'est la sécurité et qu'il soit ainsi valorisé par cet apport de sécurité. Et donc, c'est dans cette logique-là que nous nous engageons et que nous remettons les opérations au cœur de notre métier à tous les niveaux, au niveau local comme au niveau central, en faisant venir en centrale les opérations les plus lourdes. La traque des frères Kouachi, le crash de la Germanwings et d'autres opérations de maintien de l'ordre.
En 2016, vous quittez la gendarmerie lors d'une cérémonie d'adieu aux armes dans la cour des Invalides à Paris. Et 7 ans après, 2016, vous restez une figure inspirante de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous diriez de vous, Denis Favier, que vous êtes un grand gendarme, comme on dit de certains policiers qu'ils sont des grands flics?
Alors je crois que dans ces deux grandes maisons, la police, la gendarmerie, il y a des hommes de grande qualité. En fait, moi j'ai fait là où j'étais du mieux que j'ai pu avec les moyens que j'avais, et après chacun porte l'analyse qu'il entend porter sur la réussite professionnelle. Je suis, ce qui est certain, très attaché à ce corps qui m'a beaucoup donné et qui est un corps très très fort, très soudé, un corps qui est utile au pays, qui est apprécié. Et donc, si vous voulez, tout le sens de cet engagement, eh bien, c'est un sens d'un engagement au profit du pays et de nos concitoyens.
Alors je ne sais pas si on peut dire ou pas qu'il y a des grands gendarmes et que vous en êtes un, mais il y a une certitude, Denis Favier, c'est que vous inspirez des vocations de gendarmes autour de vous. Et vous avez inspiré aussi la vocation de l'un de vos fils, Jérôme, qui, après être devenu officier de gendarmerie, a réussi les tests particulièrement sélectifs d'entrée au GIGN. Il était capitaine et commandait une des 4 sections de la prestigieuse force intervention. Et le 1er juillet 2022 dernier, il a perdu la vie à l'âge de 33 ans lors d'un accident survenu alors qu'il s'entraînait dans le département de l'Eure-et-Loire. Près d'un an après ce drame, où est-ce que vous puisez la force, Denis Favier, de revenir au GIGN et d'enregistrer ce podcast aujourd'hui avec nous?
Le GIGN, c'est s'engager pour la vie. Et donc, bien sûr, il y a la gendarmerie qui a beaucoup donné, qui a beaucoup repris aussi. Mon fils a vécu dans cette caserne. Chaque fois que je reviens ici, je reviens le voir, en quelque sorte. C'était aussi sa maison. Cette maison, il l'a choisie parce qu'il a vu son père y évoluer. Donc évidemment, on a là tous les ingrédients de la tragédie. Mais ça fait partie aussi de notre vie. Et donc, il est mort en service, en faisant le métier qu'il voulait faire, en donnant du sens à sa vie par son engagement. C'est terrible, c'est trop court. Mais c'est une vie remplie, c'est celle qu'il avait choisie. Et je respecte évidemment ce choix. Je ne dis pas qu'il est facile à comprendre ou à porter, mais c'est le sens qu'il voulait donner à sa vie.
Alors ce podcast, il va être écouté par des gendarmes, certains partis en retraite, d'autres encore en activité, et aussi par de jeunes gendarmes, très jeunes gendarmes, ou même par des jeunes gens qui se posent la question de savoir s'ils vont ou pas devenir gendarmes. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces jeunes gendarmes qui nous écoutent ?
Moi, je peux comparer le monde privé et le monde de la gendarmerie, le monde public. On peut être bien dans les deux, si vous voulez. Mais je trouve extrêmement intéressant, quand on fait le choix de servir en gendarmerie, de donner du sens ainsi à sa vie par un engagement fort au profit de la collectivité. Et moi, je trouve que la question du sens qu'on donne à sa vie par l'engagement est une question centrale. Et je pense que celui qui fait aujourd'hui le choix de rentrer dans un métier comme celui de la gendarmerie fait un choix qui est un choix qui permet de donner du sens à sa vie. Et ça, ça n'a pas de prix. Et donc, c'est un choix qui est valorisant, qui est gratifiant, qui n'est pas facile, mais qui permet eh bien, de tracer un cap et puis de savoir où on va et d'avoir, en quelque part, un sentiment d'utilité. Et ça, c'est très valorisant. Et donc, je les encourage dans ce sens-là et je les félicite pour cet engagement.
Merci, Denis Favier, d'avoir été notre invité.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Flick Stories, votre podcast consacré à la culture flic. Pour ne rien manquer des prochains podcasts, vous pouvez vous abonner. Dans le prochain épisode, Christian Flech sera notre invité. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et sur l'application mobile BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou à laisser un commentaire. À bientôt !